L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous et à toutes, c'est l'Afrique dans tous ses états, l'émission de Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Guylaine, quel plaisir de vous revoir.
Et vous êtes venue Marie-Claude avec deux invités.
Oui.
Ibrahima Traoré du Mali.
Oui.
Bonjour Ibrahima.
Et bonjour
Guylaine. Et vous êtes accompagnée de Laurence Cibriani, voyageuse au Burkina. Mais pas que ça. Bonjour oui. Laurence.
Bonjour.
Alors, de quoi allons-nous parler, Marie-Claude, aujourd'hui?
Eh bien, nous allons demander donc à Ibrahima et peut-être un petit peu à Laurence qui l'accompagne, et on expliquera pourquoi, de nous parler un petit peu. Alors, on va changer de destination.
Oui, parce que aujourd'hui, le Burkina, on va aller au Mali. Vous oubliez le Burkina, là.
Burkina,
on ne peut pas,
que
on peut
Burkina,
pas
mais bon. Et donc, on va, et comme le docteur Ibrahima Traoré donc, a un cursus assez exceptionnel.
Comme tous vos invités, Marie-Claude. Comme tous vos invités.
Il va nous faire voyager un petit peu, je crois, en Afrique d'ailleurs, et il va nous parler de son parcours qui est quand même pas banal.
Pas banal.
Et c'est, comme vous allez voir, c'est un monsieur pas banal, et il a vécu des choses pas banales non plus, et il est accompagné d'une infirmière qui n'est pas banale non plus.
On voilà. est dans l'exceptionnel aujourd'hui.
Voilà.
Alors Ibrahima, vous êtes né où, Ibrahima Traoré?
Ouais, merci beaucoup, j'avoue que c'est un honneur pour moi de venir à la radio aussi pour pouvoir parler de moi-même et un peu de mon pays.
Elle est très forte, Marie-Claude.
Ouais.
Elle attire plein de gens comme ça qui n'osent pas venir, puis finalement qui s'installent dans ce fauteuil.
Donc, en fait, je suis, comme vous le dites, Ibrahima Traoré. Moi, je suis né un peu le 26 décembre 1960. C'est juste après Noël.
Juste après.
Donc, c'est à Koulikoro, la deuxième région du Mali. On est un peu au centre, à côté de Bamako, à l'est de Bamako. Donc, parmi les trentaines d'ethnies qui existent dans notre pays, moi, je suis un Bambara qui constitue à peu près 30% des ethnies du Mali.
C'est important de tout de suite donner son appartenance à l'ethnie. C'est important pour vous?
C'est important pour moi parce que savoir que vous appartenez à telle ethnie, forcément, donne... votre classe sociale, quoi, en fait. La société tient compte beaucoup de cette appartenance ethnique. Je ne sais pas, vous avez l'habitude d'entendre, quand on parle de Traoré, on parle de Koulibaly, on parle de Diarra, ces trois noms de famille constituent un groupe ethnique qu'on appelle les Bambara. Et puisqu'on sait que parmi les Bambara, il y a ce qu'on appelle une catégorie des nobles, c'est-à-dire que ce sont les autochtones. Et nous sommes vraiment en majorité au Mali. On a d'autres ethnies, les 27, 29 autres ethnies. Pour pouvoir communiquer avec les autres, sont obligés de parler un peu Bambara pour se faire comprendre. Parce que dans la société, quel que soit sur les marchés, sur les transactions, les transports, et les activités courantes, les autres ethnies minoritaires maîtrisent le Bambara pour pouvoir communiquer avec les autres. Voilà.
Oui, ça place tout de suite l'individu.
Voilà, tout à fait. Ça place l'individu. Par exemple, quand vous dites « Ah tiens, je viens de rencontrer un Bambara du Mali » et tout de suite, vous savez qu'il est du centre de la 4e région. Maintenant, cette 4e région, effectivement, est scindée en 7 cercles, on appelle la préfecture. Et chacune de ces préfectures, de façon à l'est, à l'ouest, et au nord et au sud de Ségou, il y a ces Bambara-là qui sont implantés et... J'allais dire, comme on voit ici au sud-est de la France et au sud-ouest de la France, quand ces personnes-là parlent le français, on se rend compte, on sait très bien que c'est l'accent du sud-ouest. Donc il y a ce Bambara-là aussi chez nous, que ce soit de l'est de Ségou ou le sud ou l'ouest, dès que ces personnes-là parlent Bambara, on peut dire exactement, ah tiens, il vient de Djoula, il vient de... voilà quoi.
Merci.
Voilà, et pour parler du Bambara, justement, on va dire que ça a donné naissance à une langue comme l'anglais un peu commercial, qui s'appelle le Djoula, et qui est parlé aussi à Bobo, qui est la ville qui m'accueille régulièrement depuis plus de 25 ans. Et voilà, et c'est vrai que c'est une langue, du coup, aussi, qui permet de véhiculer, de s'entendre, d'échanger, de commercer, etc. Et c'est vrai que la notion ethnique, elle est importante encore, parce que je crois qu'il y a une... C'est ce que d'ailleurs nous envions souvent monde africain, il y a une importance encore de l'appartenance justement au groupe qui fait que, bon, comme par exemple le docteur Traoré qui est avec nous aujourd'hui, qui est devenu médecin, qui va nous expliquer sa trajectoire, mais quand on entend parler aussi de sa culture, de son origine et des mythes fondateurs de son pays, c'est vrai qu'on se rend compte de cette importance-là qui donne quand même une solidité aussi aux Africains, en tout cas dans les pays voilà, que je peux connaître ou dont je peux connaître les ressortissants. Donc c'est très important effectivement, et c'est pas parce que les colons ont pris des règles pour tracer des frontières que ça a annulé, loin de là, complètement, voilà, que ça a annulé cette histoire.
Tout à fait, tout à fait. Mais cela découle en fait de s'il y a assez longtemps, c'était au temps de l'Empire du Mali, où, parce qu'il y a eu quand même trois empires, hein, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali et l'Empire du Songoui. Au temps de l'Empire du Mali, c'est vrai que le Mali s'étendait jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que l'actuelle Côte d'Ivoire, c'est jusqu'au milieu du centre de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi, comme Marie-Claude le dit, ce Bambara est parlé sous une autre forme, mais en conservant son essence principale, c'est parlé comme le Djoula et à Bobo, et comme Djoula aussi au Burkina, mais en Côte d'Ivoire. Mais c'est dû à ça, parce que l'Empire du Mali... c'était au XIIe siècle, hein. S'étendait sur tout cet ensemble-là.
Oui, ces découpages administratifs de ces nouvelles frontières ont cassé cette unité. Voilà. Mais elle est toujours dans l'histoire, elle est toujours là.
C'est vraiment la continuité. Je me rappelle aujourd'hui, quand on parle d'un premier... Je crois que c'est le premier ministre ivoirien qui s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Coulibaly, c'est d'origine malienne.
Malienne, oui.
Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est dû à l'Empire du Ghana et à l'Empire du Mali qui s'est étendu jusqu'à... Mais c'était vraiment vers le XIIe siècle. À l'époque, chez nous, le roi, il s'appelait Sundiata Keïta. Voilà, qui régnait.
Très connu, célèbre.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Ouais. Bon, excusez-moi, c'était une parenthèse.
Oui, bien sûr.
Parce que vous avez vraiment précisé tout cela.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Donc, vous êtes né le 26 décembre 1960.
Oh, voilà,
vous aviez déjà des frères et sœurs ?
Ah oui, oui, dans notre famille, on était... Il y a 7 garçons et 2 femmes, quoi. Oui, il y a le premier garçon, Daouda, et ensuite une première fille, Oumou, qui est suivie de Nana Khadija, suivie d'Amadou Gaoussou et moi. Donc, en fait, il y a les trois, il y a Boubacar, Moussa et Almami, et ensuite il y a Samba, il y a 4 après moi.
Bon, on les salue alors, peut-être qu'ils vont, peut-être nous écouter.
Ben, peut-être, oui.
On nous écoute même jusqu'au Kenya.
Mais donc, une fois qu'on aura mis l'émission en podcast.
Mais ils sont au Mali, quoi. Donc,
en podcast, oui, bien sûr, en podcast, ça peut être écouté.
Ce serait bien si vous nous écoutez.
Oui, oui, mais oui.
On leur dira.
Donc c'est vrai que c'est important, et puis bon, ce que je me dis souvent, parce que ce sont des réflexions que je me fais souvent, quand on échange, c'est qu'en fait, bon, ce que nous explique Ibrahima, c'est qu'il y avait donc ces histoires d'empire, etc., et après il y a eu quand même les partages sauvages qui sont arrivés de l'extérieur. Alors quand on voit nous encore nos histoires avec nos Catalans, on a eu l'exemple à Perpignan samedi, etc., quand on voit déjà nous notre histoire, quand on sait ce qui s'était passé par rapport à la Bretagne qui réclamait l'indépendance, on se dit quand même que il faut qu'ils soient costauds, les Africains, pour avoir subi ça, alors que nous, ce sont les histoires, les guerres, etc., qui ont créé ces frontières et qui ont refait des régions. Alors que là, c'est l'envahisseur, le colon, qui a imposé.
Ouais.
Donc, peut-être aussi, c'est pour ça que c'est si vivace, que ça reste si vivant pour eux, ce qui rend d'ailleurs leur culture, qui fait beaucoup d'envieux, si riche. Hein? Qui mérite d'être connue plus qu'elle ne l'est encore.
Tout à fait. Non, c'est un aspect que vous signalez qui est pertinent et qui est une réalité. Les Maliens en ont conscience, ils ne sont pas les seuls. Quand vous voyez le nord-est du Mali et jusqu'au nord-ouest, la frontière avec Mauritanie, c'est-à-dire qu'à partir du Kidal, le nord de Kay, la région du Kay, et ensuite... la région du Kidal face au Niger, mais on n'a jamais vu une frontière tracée en rectiligne.
C'est
des traits. Donc on comprend aisément que nos frontières ont été pensées, élaborées et réalisées en dehors des Maliens eux-mêmes. Mais toute la partie nord-ouest et toute la partie sud, sud-ouest, sud-est, ça, c'est des frontières naturelles. Par exemple, nous avons avec la Guinée, avec la Côte d'Ivoire, le Burkina, puis ensuite le Niger. Mais ça, c'est des frontières qui sont restées naturelles. Mais toutes les frontières qui ont été tracées du nord-est au nord-ouest, c'est vraiment qui a été voulu comme tel et dessiné comme tel. Bon, c'est ce qui fait que nous, nous ne bénéficions pas d'un accès à l'océan. On avait cette conscience-là. C'est vrai, c'est très important.
Et ça crée, ça pénalise beaucoup quand même au niveau de l'économie, hein. C'est énorme.
Ça nous a beaucoup pénalisé parce que n'ayant pas d'accès, comment ça s'appelle, à la mer, donc nous sommes obligés sur le plan économique et pour l'exportation et l'importation, tout passe par ce qu'on appelle le port de Téma au Ghana, à Accra. Et Lomé, on avait le contrat avec Lomé et la Côte d'Ivoire. C'est vrai que pour les années 60-61, c'était les Chinois qui étaient les premiers partenaires du Mali et également les mêmes partenaires existaient en Guinée. Donc nous, nos marchandises passaient plutôt par la Guinée. Mais les besoins de traitement de ces marchandises-là au niveau des ports exigeaient à la limite, l'installation de matériel sophistiqué, en fait, pour la logistique. Donc, finalement, la Guinée s'était disqualifiée par rapport à ça. Donc, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ont pu réaliser, c'est-à-dire construire des infrastructures adaptées au niveau de leur port. Sauf que, maintenant, pour les marchandises, ça reste toujours le port de Téma. Mais pour le carburant, le Mali passe toujours par la Côte d'Ivoire.
Oui, il y a une dépendance quand même qui n'est pas, facile à vivre.
Ah non,
ce n'est
pas facile du tout, ça c'est vrai, ça c'est vrai.
Alors on aimerait bien en revenir au docteur Traoré.
Oui, comment est-ce qu'il est? J'avais envie justement, c'est bien, on fonctionne bien toutes les deux.
Alors, comment est-ce qu'Ibrahima devient docteur Traoré?
Ah bon, c'est un parcours. tout à fait, c'est vrai que c'est un parcours. Mon père d'abord était devenu... C'est vrai qu'il est venu faire des études ici en France, ici très très longtemps, depuis les années 59, parce qu'il travaillait au chemin de fer de Soudan français. Donc, il est venu s'installer à Koulikoro, où, donc en 60, moi j'étais né. Donc, ça nous a évité les duretés du village. Donc, nous, on a pu aller à l'école, comme on dit, à l'école des Blancs, et le premier cycle, le second cycle, le baccalauréat, et puis après, on a pu faire l'école de médecine sur place à Bamako. Bon, après mon parcours, il est dû au fait que moi, mon maître de thèse, il s'appelle le professeur Éric Pichat, qui venait de la Pitié-Salpêtrière, et m'avait donné un sujet sur ce qu'on appelle les aspects histologiques et endoscopiques du côlon. On revenait de recevoir ce qu'on appelle un coloscope. Il m'avait demandé de prendre une thèse là-dessus, sur laquelle on a pu faire au moins une centaine de biopsies et avérer. Et pour dire quelles sont les incidences des polypes sur les vieilles personnes. Voilà un peu la conclusion. Justement, après la thèse, Eric m'a dit, tiens, Ibrahima, j'ai un ami qui me demande quelqu'un qui va envoyer au Burkina, dans le cadre d'une ONG. Il m'a dit, c'est pas ce que tu as fait, parce que ce que nous, on faisait, on était à la médecine interne. C'est-à-dire, après 7 années de théorie, on a fait 18 mois de pratique en médecine interne. Il m'a dit, bon, je suis désolé, tu es un bon médecin interniste, tu devais aller travailler en milieu rural pour ton pays, mais moi, je te demande ce service, est-ce que tu es d'accord? J'ai dit, bon, ben, moi, je suis d'accord. Parce que c'est vrai, à l'époque, ces ONG payaient mieux quand même.
Oui, disons-le. Même si les locaux étaient quand même moins
bien
payés.
C'est vrai, c'est vrai que c'était un choix. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé au Burkina, et il y avait des responsables de l'ONG, elle s'appelait EAST Mali, c'est-à-dire que ça veut dire Eau, Agriculture, Santé en milieu tropical.
Elle n'existe plus cette... Elle n'existe plus
non,
cette
ONG. Non, elle n'existe plus parce que c'était géré par un professeur qui s'appelle Loïc Monjour, qui était aussi à la Pitié-Salpêtrière. Et Loïc Monjour, je crois, était un assistant de Marc Gentilini, finalement, qui était passé comme président, je crois, de la Croix-Rouge, un truc comme ça. Donc, ce grand professeur était entouré d'internistes qui étaient tous des professeurs, qu'il avait envoyé un à Dakar, un à Bamako, à Niamey, à Ouaga et à Abidjan. Bon, c'est vrai que c'était dans le cadre aussi de la recherche sur les maladies tropicales. Donc ces médecins-là Parce que je me rappelle, nous, tout ce qu'on faisait dans le cadre de la médecine, et puis Charles, il a envoyé toutes nos biopsies à l'Institut Faro de médecine à Marseille pour analyse. Et voilà, et donc ces données étaient compilées et pour voir un peu... voilà, parce qu'ils étaient en train d'écrire un livre qui s'appelle « La médecine tropicale », premier tome, deuxième tome, mais c'était grâce à toutes les données collectées par ces, dans ces différentes capitales pour au moins que la médecine soit vue autrement ici, quoi. Donc, ce que je disais, c'est avec Pichard, finalement, on a travaillé dans cette ONG. Mon jour étant collaborateur direct de Pichard, moi, j'ai accepté de travailler. Donc, depuis...
C'était un beau cadeau aussi de la vie, finalement.
Ah ben forcément, forcément.
Vous ne pouviez pas refuser.
Je ne pouvais pas refuser, c'est vrai. Il faut le dire honnêtement, parce que nous, la grille salariale chez nous, vous savez, le médecin à ta sortie, c'est quoi? C'est 200 euros. Non, c'est au moins 300 euros à peu près. Mais après, il faut valider ton rapport de stage et ensuite faire 3 ans pour commencer à percevoir autre chose. Donc, c'est vraiment difficile. Or là... on te donnait un salaire conséquent sur lequel, évidemment, on te demandait de payer les tes propres impôts, tes charges sociales, et voilà, quoi.
Et justement, mais je pense qu'aussi le choix des médecins, des professeurs, n'était pas... Voilà pourquoi on a choisi le docteur Traoré.
Je pense c'est pas
que
c'est
parce qu'il voilà, sentait qu'il y avait une dimension. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours africain, j'ai été étonnée. On en voit moins maintenant parce qu'il n'y a plus trop d'accords. La coopération n'existe plus, tout ça. Mais moi, j'ai croisé des médecins français, entre autres, qui étaient quand même non seulement des cracks, mais des types qui en voulaient, qui aidaient énormément. Ils avaient envie que ça avance aussi dans les services dans lesquels ils travaillaient, etc. Ça, je crois qu'on en trouve moins maintenant. Moi, j'en ai connu, entre autres, à l'hôpital de Beaubourg, qui d'ailleurs ont fait l'objet d'une pétition parce qu'on les a rappelés à Paris, alors que des pétitions des locaux, des médecins locaux, etc. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des équipes comme ça qui étaient assez pointues. Et je pense que c'est pas pour rien que le docteur Ibrahima Traoré a été choisi. C'est pas par pur voilà, altruisme, c'est parce qu'ils ont, enfin, ils ont senti qu'il y avait quand même la réponse. Donc je veux bien qu'il y ait les histoires d'intérêt et de salaire, même si c'est... Mais je crois qu'il y a aussi quand même des intérêts mutuels à ce qui s'est passé, quoi. Non.
Oui, bien. Forcément, je ne voulais pas en venir à ce stade.
Parce que c'était à nous de le dire, c'est sûr.
C'est vrai que le professeur Éric Pichard, on était 7 internes à avoir la thèse. C'est vrai que pour les 6, ils étaient plutôt enclins à dire bon, je viens, qu'il faut qu'on les aide à venir en France étudier. Moi, dans mon cas, je disais tout simplement que je voudrais bien travailler dans mon pays, servir dans mon pays. Et ça lui avait marqué. Parce que, donc, vu effectivement les résultats qu'on avait obtenus, parce que notre sujet de thèse, finalement, était promis pour la publication, le professeur, il a été très, très, très content. C'est vrai qu'il y avait, en amont, il y avait un boulot qui a été fait avec Cerie et tout. Je pensais qu'on ne devait pas en parler, tout ça, mais bon. Il y a tout ça, effectivement, qui ont dû le motiver à dire dans ce cas, puisque j'étais le seul qui avait dit qu'il voulait travailler ici, enfin dans mon pays, et par sur les 7, et vu effectivement les résultats, il m'a dit, bon, ben t'en fais pas, je sais que tu peux bosser à Ouara, et tu peux bosser à... Parce que cette ONG, finalement, travaillait au Burkina, au Sénégal, et un peu au nord du Togo, c'est-à-dire à la frontière. Et donc... c'est effectivement à cause de ces raisons-là qu'on a pu s'engager.
Donc voilà, c'est bien vrai ce qu'on disait. D'accord. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant, Dr Traoré, c'est le fait que du coup, cette mission, après, a débouché sur une mission un peu plus encore élargie. Parce qu'au départ, c'était pour une ONG, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait.
Et ensuite?
Oui, en fait... disons que l'ONG, quand on a commencé, on a été connu dans le domaine de ce qu'on appelle l'éducation sanitaire, c'est-à-dire principalement, on faisait ce qu'on appelle la lutte contre l'insalubrité. Et puis, c'était les années 90, hein, donc 2000, on commençait à la promotion, dans le cadre de la promotion de l'eau potable. Et donc l'UNICEF s'y mettait, l'OMS s'y mettait aussi, il y avait ce qu'on appelle le Fonds européen de développement, qui eux aussi s'y mettaient. Donc, à la limite, c'était l'activité phare par rapport aux Africains. Vous savez que chez nous, je prends l'exemple du Mali, déjà, En 2011, on n'était que 47% d'alphabétisés. Ça, c'est dans les grandes villes. Imaginez un milieu rural.
Mmh, tout à fait.
Non, mmh. c'est la catastrophe.
Mmh.
Donc, en fait, ces mamans qui, dans les milieux ruraux, n'avaient pas conscience qu'il y avait une différence entre l'eau d'un grand puits et l'eau d'un forage en termes de potabilité, ne comprenaient pas l'impact sur les enfants. Et donc, vous savez que l'une des causes des maladies chez nous, chez les enfants de 0 à 5 ans, c'est que c'est plutôt la maladie, mais aggravée par ce qu'on appelle la malnutrition. C'est la malnutrition sous-tendue des maladies qui tuent beaucoup d'enfants. Et cette maladie, la malnutrition, commence déjà par des crises de diarrhée et vomissement qui sont liées forcément à la mauvaise qualité de l'eau de boisson. Et le cycle recommence, quoi.
Mm-hmm.
Donc, quand on a pu commencer ces activités-là, je veux dire, les années 2000 jusqu'en 2010, 2009, on avait effectivement des projets tous les ans, hein, surtout avec le FED, un peu aidé par l'UNICEF. Mais il y arrivait aussi des moments où on n'avait pas de projet. Je crois qu'on est resté un an sans activité, à la suite duquel, je crois que notre patron ici connaissait du monde, quoi. Donc c'est Total Dijon qui finalement nous avait permis de réaliser dans un quartier de Bamako, en banlieue de Bamako, une pompe solaire. Donc on avait repris les activités pour mettre... Et voilà, quoi. Et à l'époque, il y avait, je crois, Antenne 2 et je ne sais pas quel... médias qui les avaient suivis pour l'inauguration. C'était en pompe, quoi. Bon, après, j'ai continué effectivement. À partir de 2006-2007, j'ai intégré un laboratoire de biologie moléculaire appliquée.
À Montpellier ?
Non, au Mali toujours.
Au Mali toujours ?
Oui, ce laboratoire s'occupait de la recherche sur le palu, quoi.
Mm.
Bon, en fait, le professeur Ousmane Koïta, qui était le directeur du labo, m'avait sollicité pour venir encadrer un peu ces équipes d'enquête sur le terrain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? On essayait de... C'était des enquêtes d'observation. Hein. C'est-à-dire que à l'époque, l'OME était en train de faire la promotion de ce qu'on appelle les mesures de prévention appropriées par rapport à la lutte contre le palu. Et puisqu'on sait que c'est à la tombée de la nuit ou au début de la journée que les moustiques ont des activités très prononcées. Donc là, on allait à Dioro, et sur 3 ou 5 villages, donner des moustiquaires à cette population, et cette population n'en recevait pas. Et au début, on faisait ce qu'on appelle des prélèvements pour voir le taux d'infestation à base du Plasmodium falciparum. Et au bout de 3 semaines, 4 semaines, les dosages étaient effectués. Et après la collecte de ces informations, on revenait au labo pour voir un peu comment ça se passe. Et bien sûr, la différence était nette. C'était pour dire qu'effectivement, la mise en place des rideaux, en tout cas, en termes de moustiquaires, avait un avantage et un impact certain pour réduire, en tout cas, le taux d'infestation des enfants. Donc moi, je travaillais au labo pendant, je ne sais pas, 3 ou 4 ans. Et c'est là-bas qu'il y avait... Donc, un jeune qui s'appelait Séni Nafo, à l'époque, c'était l'enfant du ministre de la Santé.
Mm-hmm.
Donc, il a été venu, a pu négocier un petit projet qui s'appelait la naltrexone. C'est-à-dire que la naltrexone était un médicament qui diminuait les facteurs de risque chez les patients atteints de VIH. Qui, même en déclarant la maladie SIDA, c'était un médicament, la naltrexone, quand même, qui diminuait vraiment considérablement. Mais puisque c'était des Américains qui avaient confectionné, enfin, qui avaient trouvé ces médicaments-là, il fallait tester sur une population. Or, vous savez que les essais cliniques dans ces pays-là, ça, c'est de rigueur et ça demande beaucoup d'investissement. Donc, ils ont demandé à CENI, est-ce qu'il ne peut pas trouver, par exemple, au Mali, en Afrique de l'Ouest, des personnes responsables afin qu'on puisse traiter, en fait, qu'on puisse évaluer l'impact réel. Donc, on a été engagé dans ce projet. Moi, j'étais un peu le responsable logistique avec rôle de formation aussi. Et il y avait le principal investigateur, c'était le professeur Kader Traoré, qui était le directeur de l'Institut de dermatologie de Bamako. Donc on avait, et le projet j'étais étalé sur 5 centres, j'étais dans les hôpitaux. Bien sûr, il y avait les TB, il y avait les tuberculoses, le sida, et puis ceux qui sont, et puis les niveaux de palu. À la fin de ce projet qui avait pris 18 mois, Séni ayant accès, puisque sa mère était, c'est sa tante qui était ministre, m'a dit, ah Joe, en fait, il y a des gens qui vont aller faire des études à Ouida, hein, pour l'épidémiologie. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais moi, je ne suis pas fonctionnel, comment ça se passe? Il dit, non, attends, je veux poser des questions. Donc, c'est comme ça qu'il a demandé qu'en fait, l'État, malgré qu'il est membre de l'OMS et qu'il cotise, donc l'État a le droit de proposer soit un fonctionnel ou soit un privé. Mais sauf qu'ils ne mettent pas cette information au niveau des privés. Donc, quand il lui a été demandé, on lui a dit non, c'est possible. Qu'il suffit que j'aie le diplôme de médecin. Et c'est comme ça que je suis allé faire l'épidémiologie. Donc, 2009, c'était une année à Ouida. C'est une école qui est gérée par CDC Atlanta, je crois, l'OMS et puis l'UNICEF. Ce qui fait que le diplôme, c'est à un niveau
international.
International, quoi. Ah. Et donc, après ça, donc, quand on est revenu, la preuve d'ailleurs, en décembre 2009, l'OMS a sorti un communiqué que tous ceux qui sont revenus de Ouida, on était quoi? On était 5 ou 6, qu'ils ont besoin de ces gens-là directement pour pouvoir les insérer dans leur programme. Mais ça a été le début de mes activités au niveau de l'OMS Mali, quoi.
Voilà. Marie-Claude, il va falloir qu'on s'arrête. Hein.
Oui, il va falloir qu'on s'arrête. C'est passionnant, mais bon, il va revenir. Hein, parce que c'est pas possible, sinon. C'est pas possible, hein, Laurence? Je suis sûre que Laurence, elle a appris plein de choses aujourd'hui.
Oui,
hein, comme moi, d'ailleurs.
Oui,
voilà. C'est... En tout cas, merci.
D'accord. Merci.
On a choisi un morceau musical apporté par le
choix, c'est,
voilà, Traoré.
C'est le docteur Traoré qui l'a fait. Donc, c'est Florent Pagny. Le titre s'appelle Tue-moi, et je crois que ça, c'est référence à une histoire, une anecdote.
Oui, c'est vrai que depuis quand on a commencé les activités avec l'ONG East Mali, ça s'appelle, on avait eu vraiment des amis, puisque le professeur Loïc, il ne pouvait pas se déplacer, mais dans le besoin de faire ce qu'on appelle une supervision, une évaluation, donc il y avait toujours des consultants qu'on envoyait. Et qui travaillaient, je crois, au niveau de l'ONG ici à Paris. Donc, quand ils viennent en Afrique, vraiment, on a tissé des très bons liens. Donc, eux, ils ont pris l'habitude à chaque fois, puisque quand on est dans les caisses, on mettait des musiques en fond, tout ça. Là. Donc, ils ont pris l'habitude, dès qu'il y a la bonne musique, et moi, ils m'envoyaient, ils me disaient, oh tiens, vraiment, il y a un nouveau, il y a un monsieur qui a fait un bon tube, tu en voudrais, j'ai dit, si. Et c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé Florent Pagny. Et à l'époque, je ne sais même plus quelle date. Ah, j'avais ça tout le temps dans la voiture. Et...
Bon, alors on va vite écouter Tue-moi de Florent Pagny.
Souvenir.
Voilà. Ah oui, d'accord.
Et on se retrouve
la semaine prochaine, absolument.
Pour un deuxième épisode.
On ne peut pas se louper là. Hein.
Si tu me vois un jour rastiquer mes souvenirs, parce que je verrai plus briller mon avenir, si je refais plus le monde à chaque fois que je bois, plus de morale d'acier dans mes gueules de bois, tue-moi. Quand tu commenceras à compter les jours qui séparent les fois où je te fais l'amour, tu me surprends à fermer les fenêtres, parce que le bruit des gosses me monte à la tête. Tue-moi. Tu me tueras si tu t'en vas. Simplement si tu t'en vas. Si tu me vois de mes anciens copains, si je serre les fesses plus fort que les poings, si je deviens nouveau con et ancien battant, si je me révolte plus contre deux calmants, tue-moi. Si un jour tu vois que je m'économise, si j'ai peur d'avoir froid quand je donne ma chemise, si tu m'admires plus parce que j'ai peur de te perdre, t'as plus pour moi que cette tendresse de merde, tue-moi. Tu... partir.